Accès libre avec Luc Fortin.
Avec vous pour ce lundi 10 juin. J'espère que vous allez bien. Jean-Sébastien, j'ai un appel à tous à faire. Est-ce que tu es au téléphone ou je te vois pas, moi?
Non, je suis en onde, je suis à l'écoute.
Je suis en onde. J'ai trouvé une paire de chaussures chez moi, je sais pas c'est à qui. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec des chaussures, qui est reparti sans chaussures.
Alors, on prend le cinquième appel, 514-282-3472.
Je trouve ça vraiment particulier. Ce matin, je cherchais mes souliers. Ah, c'est quoi ça?
Es-tu sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui est caché dans ton garde-robe?
En tout cas, c'est vraiment, vraiment particulier. Je vous donne des nouvelles la semaine prochaine. En espérant. Écoute, il y a quelqu'un qui va réclamer ces souliers-là, je peux pas croire. Aujourd'hui, on va parler d'accessibilité. Tant du côté de Lanaudière, on a fait un petit sondage pour savoir quelles villes sont accessibles. Disons, quelles villes répondent aux exigences. Est-ce que les exigences sont hautes ou dans des petites villes, tu sais, moins de 5000 habitants, on est plus conciliant. On va aller faire la même chose du côté de Sudbury avec la Accessibility Ontario with Disabilities Act. On va essayer de voir comment ça va en Ontario. Surtout que j'ai vu un article du Ottawa Citizen qui disait que ça marche pas, mais à Sudbury, ils disent que ça fonctionne. Alexandre nous parle d'informatique et on parle à un prof d'éducation physique dans quelques secondes. Monsieur Stéphane Boisvert, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va super bien, et vous?
Yeah, ouais, merci, c'est gentil. Tu peux m'appeler Luc, tu peux m'envoyer promener si jamais l'occasion se présente. Bon.
Je n'y crois pas.
Écoute.
Je pas là. Mais je cherchais mes souliers, justement, par exemple.
Ah, oh, ben, Colin, ils sont chez nous. Ils sont chez nous. Toi qui es en Estrie, ça veut dire que tu es venu vendredi pendant que j'étais à Québec.
Ouais, c'est un peu loin.
Bon, Stéphane, j'ai lu que tu avais été perdu pendant 8 jours dans les Rocheuses. Je comprends que les Rocheuses sont belles, mais c'était-tu nécessaire de te perdre pendant 8 jours? Et ben là, t'as une prothèse, t'as également, ils t'ont aidé dans l'autre pied. Bon, regarde, moi j'ai un rhume aujourd'hui et j'anime, alors je comprends tout à fait ce que t'as ressenti dans les Rocheuses. Non, parle-moi un peu de comment on se sent, tu sais, la nuit, là, puis après 2-3 jours, tu dis, coudonc, ils me trouveront pas.
Oui, exact. Mais en fait, un petit correctif, ça a été 7 jours. En fait, j'ai été perdu.
C'est pas
une grande différence, là, mais... mais, je dirais que surtout la première nuit a été... m'a pris de court un peu, parce que la noirceur arrive assez rapidement dans une vallée comme ça. Donc, je vous dirais que les nuits, le souvenir, c'est que les nuits sont hyper longues.
Oui, c'est ça. C'était à quelle période de l'année? C'était à quelle période de l'année?
Dans le fond, c'était fin janvier, début février.
C'est pas chaud non plus.
Du 28 au 4.
My God.
29 janvier au 4 février.
Bon, là, t'as fait un bout de temps à Calgary, dans un milieu hospitalier. Après ça, t'es revenu ici. Et là, t'as fait encore de l'hôpital, ensuite de la physio. Mais ce qui m'a intrigué, c'est qu'on a dû travailler avec toi pour que tu puisses choisir ta prothèse. J'ignorais qu'on pouvait choisir une prothèse.
Oui, effectivement. Tout dépendamment un peu de la réalité de la personne, dans le fond, de ses habitudes de vie, de ses réalités, de son travail, en fait, il y a des possibilités qui s'offrent à nous. Puis l'équipe à LDRDPQ m'a été fantastique, vraiment, du début à la fin.
Ouais.
Puis avec mon prothésiste, ma physiatre et toute l'équipe multi avec moi. Puis il y avait la possibilité, justement, de regarder par rapport à la combinaison de le fait que j'étais actif, mon emploi qui était professeur d'éducation physique, puis le quotidien. En fait, c'était de trouver la meilleure solution, la meilleure prothèse qui pouvait un peu arranger tout ça en même temps.
Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme choix? OK, 4 prothèses.
Ouais.
Puis, j'imagine qu'il y a la fonctionnalité, mais il y a le prix, il y a l'entretien. Quels sont les critères pour faire son choix?
Ben en fait, c'est surtout, vu que c'est la RAMQ, en fait, qui débourse ça, tout dépendamment, comme je disais, un peu la réalité de la personne, mais des fois, il y a des demandes plus spéciales, plus spécifiques, qui des fois sont acceptées, des fois sont refusées.
Ouais.
Dans le fond, eux font la demande, ceux qui s'occupent de tout ça. Puis, dans le fond, l'entretien, je dirais, périodiquement, là, mettons, tout dépendamment du besoin, mais tu sais, dès que j'ai une problématique, dans le fond, moi, je vais aller à RDPQ. Fait que, tu sais, c'est vraiment ponctuel comme demande, mais environ, je dirais à peu près aux 3 mois. Là.
Puis quand tu parles d'entretien, tu penses à quoi?
Ben, c'est surtout l'emboîture, en fait. Là. Moi, la prothèse en soi, c'est vraiment solide, là, à moins que... Mais sinon, c'est hyper solide. Moi, c'est vraiment plus l'emboîture, là, en fond, dans le truc dans lequel je mets mon moignon.
Je comprends, mais le moignon, il change-t-il? Pourquoi faut, aux trois mois, faire des ajustements?
Oui, exactement. Parce que moi, j'ai essayé différents systèmes. Justement, il y avait la prothèse en soi qu'on a fait l'essai de 4. Puis suite à ça aussi, il y a l'emboîture, que, comme tu dis, en fait, il y a la modification du moignon qui fait beaucoup durant les deux premières années. Dans le fond, il y a vraiment une période intense okay. dans la première année où que, là, j'ai changé, je pense, aux deux, trois mois maximum d'emboîture parce que j'ai mon moignon diminué.
OK.
Puis suite à ça, il y a différents systèmes aussi d'emboîture de façon de tenir le moignon. Il y a des différents systèmes, il appelle ça des full contact. Des fois on voit ça dans les films aussi, il y a comme une pin qui vient se rentrer dans l'emboîture. Mmh. Il y a différents systèmes comme ça. Fait que moi j'en ai essayé deux, trois, puis pour trouver un peu le moyen de compression idéal, étant donné mon activité.
Ouais.
Puis là, récemment, je viens de changer, ça fait justement deux, trois semaines.
Est-ce que c'est lourd quand tu cours, quand tu sautes, parce que tu pratiques encore plusieurs activités, tu es retourné comme prof d'éducation physique, est-ce que c'est lourd? Ouais.
Surprenamment, je croyais que c'était plus lourd, mais on a fait l'essai pour le fun de la peser, en fond, à part, puis faire le calcul de comment pèse une jambe, en fond, le membre que j'ai perdu.
Ouais.
Puis je pense que c'est une question de 0,3 livres de différence.
Au niveau de la cuisse, par exemple, j'imagine que tu as une musculature plus développée du côté de la jambe atrophiée?
Non, justement, ça s'est atrophié. Mon muscle de mon quadriceps s'est atrophié. Tout ma musculature, c'est pas mal atrophié, je dirais, vu que les attaches de mes muscles sont moins sollicitées. En fait, mon muscle travaille moins. Donc, je suis un petit peu plus... Je suis rendu avec une petite cuisse.
OK.
Comparativement à l'autre côté.
OK. T'es retourné quand travailler? Parce que c'est arrivé en 2017.
Ouais. Hiver 2017, j'ai été amputé en mai 2017. Puis je suis retourné, ça fait deux semaines en fait.
Oh, c'est OK, c'est récent. C'était quoi le feeling?
C'est sûr que j'étais allé avant les fêtes, juste prendre justement le feeling, prendre le pouls. Tu sais, j'étais pas en charge, j'étais vraiment en surplus.
Ouais.
Donc juste pour prendre le pouls. Puis donc ça avait cassé la glace. Puis il y a deux semaines, non, le feeling c'était le fun, moi. J'ai bien aimé ça. Parce que aussi c'est différent. J'étais arrivé au secondaire. Préalablement, j'étais au primaire pas mal tout depuis les 7 dernières années, en fait. Okay.
Avant mon accident. Parce que là, t'es dans une polyvalente.
Moi, dans le coin de Victoriaville. Secondaire, donc ouais. Bien aimé ça. Là, on est rendu à l'extérieur, on est à la fin de l'année, donc c'est moi j'ai eu le feeling est bon, le feeling est le fun. Les élèves sont. J'ai une super de belle clientèle, moi, comme poste. Là. C'est des sports études et tout ça. Fait ouais. C'est super le fun.
Stéphane Boisvert, qui est prof d'éducation physique à la polyvalente. C'est quoi? Les Boisés? Le Boisé?
Oui, le Boisé, exact.
Le Boisé, du côté du
Colérin. Justement, après l'entrevue, dès que je raccroche, je m'en vais enseigner à mon groupe de sports études à 12h40, justement.
Ben, voilà qui est bien. Est-ce que ton cours est obligé d'être adapté parce qu'il y a des choses que toi-même, tu ne peux pas faire? Ou tu dis, ben non... Je trouve une façon, je les regarde puis je les coach, même si moi, je peux pas participer avec eux pour telle ou telle raison.
Oui, ben c'est ça, il y a différentes disciplines que, exemple, je crois ça va être plus difficile de démontrer, mais maintenant, c'est ça, je m'adapte. Soit que je prends des élèves qui sont avec de bonnes aptitudes pour faire les exemples, ou sinon, il y a des moyens technologiques que je peux utiliser aussi en gymnase ou tout ça, fait qu'on trouve des solutions, on trouve des adaptations, des façons de faire un peu différentes, mais c'est qui fait en sorte que eux peuvent avoir un peu le même enseignement. La seule chose, c'est moi, je peux faire différentes disciplines, pas toutes. Puis à ce moment-là, c'est comme je disais, là, dans le fond, j'utilise les moyens technologiques ou d'autres élèves. Puis je dirais sinon, il y a moi, personnellement, des fois, il faut que je prenne des moments de pause
pauses,
pour
ouais.
ôter ma prothèse. Des fois, souvent, il y a de la sueur, tout ça qui s'accumule. Donc, tu sais, je dois nettoyer, essuyer ma prothèse pour la remettre. Fait que j'ai des petits moments de pause de prévu durant le cours, par exemple. Donc,
c'est certain que pour une société comme la nôtre, tu es très, très payant. J'entends par là que tu es un exemple, tu es un modèle. Les jeunes qui te côtoient voient que c'est possible, ont un accès à une personne qui fonctionne à plein régime puis qui a un handicap. Mais bon, ça, c'est bien le fun pour la société. Mais toi, est-ce que tu trouves ça lourd de jouer ce rôle-là? Parce que je lisais l'article qui m'a révélé à toi, là. Écoute, on t'a appelé le miraculé, le courageux. Là. Écoute, on en mettait, là, on beurrait large comme ça se peut pas. Là. Moi qui suis une personne handicapée, j'ai fait...
Ben, c'est sûr qu'à certains moments, parce que dans le fond, je viens de Victoriaville, qui est une ville relativement moyenne, mettons, environ 40-45 000 habitants. Puis, tu sais, c'est quand même un petit, moi j'appelle ça un gros village.
Ouais.
Donc, un peu, tout le monde se connaît par personne interposée. Puis, tu sais, j'ai été j'ai joué au soccer beaucoup dans ma vie. J'ai travaillé au public beaucoup. Fait que, tu sais, mes parents, c'est des très grands sportifs aussi, mais ma famille. Donc, on connaît quand même beaucoup de monde. Fait que, c'est sûr que sortir à l'épicerie, des fois, quand au début que je sortais ma réadaptation, là, je me faisais beaucoup, beaucoup questionner, aborder sur le sujet. C'est sûr que des fois, ça a été un peu lourd, mais tu sais, en même temps, avec du recul, je me disais, tu sais, les personnes veulent seulement s'informer, veulent pas mal faire du tout. C'est sûr que ça a été demandant à un certain point. Mais tu sais, j'avoue que tu sais, je le prenais, tu sais, je prenais le positif qu'ils se disaient, mais des fois je trouvais ça un peu peut-être un peu exagéré.
Ouais.
Comme je disais à mes amis qui en revenaient pas, je disais crime, tu sais, tant que t'es pas confronté à la situation, tu sais jamais comment tu vas réagir.
Ben, c'est ça.
Je disais à mes amis qui étaient en forme, tout ça, tu sais, vous auriez probablement passé à travers aussi.
Ben, c'est ça, moi je dis souvent, le pompier qui se garoche dans l'incendie pour sauver quelqu'un, lui, il n'est pas obligé. Moi, dans mon cas, vivre mon quotidien, ben, de la façon que je le vis, je suis obligé. Alors, c'est pas du courage, c'est par nécessité, j'ai pas le choix. T'sais.
Exact.
Ouais. Mais écoute, lâche pas.
C'est sûr que ça reste deux choix, tu sais. Il y a deux façons aussi de réagir et de faire face à les situations.
T'as raison.
Tu peux t'apitoyer sur ton sort ou prendre toutes les opportunités qui s'ouvrent à toi. T'sais, justement, moi, avec mon équipe, ils m'ont donné une panoplie d'opportunités. Donc, j'ai juste sauté dedans, j'ai embarqué là-dedans, puis ça
m'a aidé,
puis ça m'aide à passer à travers.
J'imagine aussi, en terminant, puis je veux vraiment pas là, diminuer là, ce que tu vis, mais pas du tout, mais le fait que tu savais que tu avais un boulot, au retour, tu avais quelque chose, tu avais un objectif, tu avais des jeunes qui t'attendaient, tu avais une paye, tu avais... Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui dit « Qu'est-ce qui va arriver avec ma vie? »
Mm-hmm.
Fait que... Puis je trouve ça le fun que tu dises « Ben, ça s'est bien passé. » Tant mieux.
Évidemment, c'est sûr que c'est un stress de moins sur les épaules parce que pour avoir vécu 5 mois en réadaptation, les RDPQ, dans le fond, on est tous sous le même toit.
Ouais.
Toutes les handicaps possibles et imaginables. Puis tu sais, tu vois différentes réalités de certaines personnes que des fois, tu dis, Colin, tu sais, je me considère, malgré tout, à certains égards chanceux de ma réalité comparativement à certains qui se retrouvent devant rien, qui se retrouvent sur le bien-être social suite à ça. Fait que c'est sûr que c'est un stress de moins qui aide la situation.
T'as un cours dans 25 minutes, amuse-toi bien.
Good, merci beaucoup. Merci pour l'entrevue.
Stéphane Boisvert, qui est professeur d'éducation physique du côté de la polyvalente Le Boisé, dans le coin de Victoriaville.
In the cold gray light of the 6th of June, in the year of 44. The Empire Lark sailed out from Poole to join with thousands more. The largest fleet the world had seen, we sailed in close array, and we set our course for Normandy at the dawning of the day. There was not one man in all our crew but knew what lay in store. For we had waited for that day through 5 long years of war. We knew that many would not return, but all our hearts were true. For we were bound for Normandy, where we had a job to do. Now the Empire Larch was a deep sea tug with a crew of 33. And I was just the galley boy on my first trip to sea. I little thought when I left home of the dreadful sights I'd see. But I came to manhood on the day that I first saw Normandy. At Arromanche, off the beach of gold, neath the rocket's deadly glare, we towed our block ships into place, and we built a harbor there. Mid shot and shell we built it well, as history does agree. While brave men died in the swirling tide on the shores of Normandy. For every hero's name that's known, 1,000 died as well. On stakes and wires their bodies hung, rocked in the ocean swell. And many a mother wept that day for the sons they loved so well. Men who cracked a joke and catched a smoke as they stormed the gates of hell. As the years passed by, I can still recall the men I saw that day, who died upon that blood-soaked sand where now sweet children play. And those of you who were unborn, who've lived in liberty, remember those who made it so on the shores of Normandy.
Quelle histoire, Jean-Sébastien, raconte-moi l'histoire de ton grand-père. Parce que on parle de Jim Radford qui était le plus jeune vétéran, c'est-à-dire qu'il avait 15 ans lorsqu'il a participé au débarquement le 6 juin 1944. D'ailleurs, ça s'appelle The Shores of Normandy. Et tu me parlais de ton grand-papa.
Oui, oui, mon grand-père aussi a fait la Seconde Guerre. Puis il n'était pas majeur quand il a voulu s'inscrire. Je ne me souviens pas s'il avait 16, 17 ans. Donc, lui, il s'est inscrit. Et puis, ben, il n'avait pas l'âge avec son père, donc mon arrière-grand-père, est allé le rechercher. Il a répété le stratagème deux autres fois. Rendu la troisième fois, son père a dit « Bon, ben, je vais le laisser y aller parce qu'il va trouver une façon d'y aller quand même. » Donc, c'est comme ça. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre et puis il n'avait pas tout à fait 18 ans lorsqu'il s'est inscrit.
Il est revenu vivant et en un morceau? Ou...
Oui, oui, il est revenu du moins physiquement sain et sauf. Ouais. Pour ce qui est du reste, ce n'est pas un sujet qu'il abordait jamais. Donc,
j'avais envie d'écouter cette chanson-là, bon, qui a été lancée avec le 6 juin de la semaine dernière, mais parce que 150 000 soldats, évidemment, bon, c'est toute la guerre, mais je me demandais combien de personnes sont devenues handicapées à cause de cette opération-là, et comment la folie de la guerre peut changer des vies, une société. On le sait tous, là, mais en tout cas, la première fois que j'ai entendu cette chanson-là, ça m'a rentré dedans. Audrey-Lyne Lachance, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci, et vous?
Oui, merci, c'est gentil. Je suis grippé un peu, mais ma boss, elle voulait pas que je reste chez nous.
Ben non, elle voulait que vous me parliez.
Allez dur, ma bosse. Ouais, vous êtes directrice régionale de l'association de loisirs pour personnes handicapées. de Lanaudière et on avait envie de causer avec vous parce que c'était la première fois que vous faisiez d'abord un salon du loisir adapté et vous avez aussi décidé de faire un sondage. Parlez-moi donc du salon d'abord, comment ça s'est déroulé?
Ah, ça a tellement bien été, succès vraiment, là, on est très satisfait. Il y avait plein d'exposants, beaucoup de personnes qui sont visitées les kiosques, en fait, que c'était des organismes qui offraient du loisir pour les personnes handicapées, du loisir adapté, inclusif. Puis, il y avait des activités proposées durant la journée. Là, c'était une grosse journée, mais on est vraiment satisfait. On pense peut-être même à faire une deuxième édition prochainement.
Prochainement?
Bien, prochainement. Peut-être l'année prochaine dans deux ans, là, mais c'est sûr qu'on va le refaire assurément tellement les gens ont apprécié. On n'a eu que des commentaires positifs sur cette première édition-là.
Aviez-vous des objectifs particuliers lorsque vous avez dit « tiens, on fait ce salon-là »
Bien, c'est sûr que nous, c'était fait dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, c'était sûr qu'on voulait faire de la sensibilisation. On voulait montrer aussi à la population qu'il y a plein de choses qui se fait dans notre région, des organismes qui sont pas connus. Donc, c'était sûr que c'était de sensibiliser la population puis de faire découvrir aussi le loisir adapté de chez nous.
Bon, maintenant, également, il y a eu évaluation qui a été, je présume, les résultats ont été présentés dans le cadre du salon, mais oui. Ça, vous aviez déjà ça en tête depuis combien de temps, cette évaluation-là?
En fait, le palmarès des édifices accessibles, c'est la troisième édition qu'on le faisait. Ça avait lieu en 2003, une fois en 2006. Il y a eu un petit arrêt du comité, puis dans le fond, là, on l'a reparti. C'est quelque chose qui est fait quand même aux 3 à 5 ans. Okay. Parce qu'il faut quand même permettre aux municipalités d'apporter des travaux puis des modifications. Mais c'est vraiment, là, on vise vraiment à faire le portrait de l'accessibilité des édifices municipaux, que ce soit l'hôtel de ville, les parcs, la communication, les événements, tout ce qui touche le loisir. Donc, on a pris le moment du Salon du loisir pour le lancer, mais c'était aussi dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées qu'on a fait ça.
Audrey-Lyne, il y avait combien de municipalités dans Lanaudière?
50.
Qui sont tenus de faire un plan d'action, donc qui ont 15 000 habitants et plus.
On a 6 municipalités qui sont tenues à faire le plan d'action par chez nous. On a certaines municipalités qui s'approchent, mais ils n'ont pas encore atteint les 15 000 habitants.
Mais votre sondage ne sondait pas que les 6 municipalités en question, là.
Oh non. Okay. On a lancé le sondage à l'ensemble des municipalités, aux 56 municipalités de notre région. On a eu 21 réponses. C'est sûr que, dans le fond, nous, on a décerné des certificats à 5 municipalités qui se sont démarquées dans l'ensemble. Mais c'est, dans le fond, il y a été par nombre d'habitants, donc de 0 à 2 000 habitants, 2 000 à 5 000 et en montant. Comme ça, on se disait, bien, les 15 000 habitants qui ont un plan d'action, qui ont des démarches, bien, sont comparés avec d'autres municipalités, d'autres villes qui offrent, qui sont soumises aux mêmes responsabilités aussi, là.
Est-ce que je me trompe ou j'ai raison quand je dis que les plus petites villes ont moins d'argent, donc c'est peut-être plus difficile pour elles de se rendre accessibles?
Bien, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile, mais il y a plein d'actions qui, des fois, demandent pas tant d'argent que ça, puis qui sont possibles de faire. Puis c'est sûr, c'est que nous, en faisant ce palmarès-là, ben ça l'ouvre des portes. Nous, on est prêts à travailler avec eux aussi, voir qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, puis on est conscient aussi que les municipalités, des fois, les édifices, tout ça, c'est vieux. Fait que c'est plus difficile aussi que de rendre ça accessible, considérant que des fois, la bâtisse, tout ça, là, c'est vieille. Ouais. C'est vieillissant, mais il y a plein de choses que les villes peuvent faire, peuvent mettre en place. Qui, tu sais, une programmation accessible, des communications accessibles, c'est pas si difficile, ça demande
c'est
pas
sûr.
D'argent, puis c'est facile à faire.
Je suis content de vous l'entendre dire, mais dressez-moi un petit tableau, là, un petit résumé de ce que ça a donné comme sondage.
Écoutez, c'est ça. Il y avait 21 municipalités qui ont répondu sur 56. C'était sur une base volontaire. C'est sûr qu'il y a plusieurs municipalités qui m'ont dit « Ah, c'était quand même beaucoup de questions, donc qui n'ont pas répondu. » Mais effectivement, on s'est dit que notre formulaire allait être peut-être revisé.
Ça, c'est des gens payés là, qui vous ont dit ça, là.
Ben,
je trouvais qu'il y avait beaucoup
oui.
de questions.
Oui,
okay.
oui, oui. Mais oui, effectivement. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que 36... Le taux de participation, donc c'est ça, 36 % des municipalités, c'était quand même inférieur aux autres éditions. La dernière fois qu'on l'avait faite, il y avait eu 31 municipalités sur les 56.
Okay. Okay.
Des faits saillants, les principales constatations, donc les bibliothèques, hôtels de ville sont les mieux adaptés à 71 %. On constate aussi d'amélioration dans les municipalités de 0 à 2000 habitants, là, de 50 à 70 d'amélioration. Donc, ça faisait quand même près de 10 ans qu'on ne l'avait pas fait. Ça fait que les municipalités ont quand même travaillé fort, ouais, là, pendant les années qu'on ne l'a pas fait. Puis, bizarrement, on a constaté qu'il y a des municipalités qui avaient légèrement diminué leur accessibilité.
Ah bon?
Donc, ben peut-être qu'on s'est dit, peut-être à cause de notre échantillonnage, par le passé, on le faisait par MRC. Donc, 6 MRC dans la Nosière. Là, on les a faites par catégorie, okay, d'habitants. Fait que peut-être que les données changent à cause de tout ça.
Mais c'était quoi au chapitre des communications? Parce que, bon, tu peux pas enlever une rampe d'accès, là.
Non, bien, c'est sûr qu'on a ajouté aussi des catégories cette année, dont la communication, l'accessibilité des événements. Fait que, tu sais, tout ça, ça joue aussi. Nous, c'est des données statistiques. Donc, c'est difficile de comparer aussi avec... fait que c'est peut-être, ouais, ça, là.
Une belle surprise, Audrey Lynn?
Une belle surprise. Je pourrais te dire que on a 5 catégories, donc je pourrais les dire.
Ouais.
Moins de 2000 habitants, Saint-Cuthbert. De 2000 à 5000 habitants, Notre-Dame-de-Lourdes.
Pourquoi? Pourquoi c'est une belle surprise, Saint-Cuthbert?
C'est toutes des belles surprises, okay, en fait, mais je veux dire, moi, je suis surprise de un que des petites municipalités autant à y participer, puis on est content aussi de voir que ces municipalités-là sont accessibles. Des fois, on les visite, mais de voir qu'ils sont autant accessibles, pour nous, c'est des belles surprises. On ne l'a pas décerné officiellement, mais Joliette a eu une petite mention coup de cœur par la personne qui l'a présenté, vu qu'elle arrivait pas mal ex aequo avec la ville de Terrebonne, qui était 15 000 habitants et plus. On a Notre-Dame-de-Prairie de 5 à 10 000, puis Saint-Charles-Borromée de 10 à 15 000 aussi, qui sont mérités des certificats.
Je suis curieux, les organismes dans votre coin, est-ce,
oui,
qu'ils sont pour ou contre une loi cadre, un peu comme ce que le Parlement d'Ottawa vient de voter? Est-ce que c'est discuté chez vous? Est-ce que...
Non. Présentement, non, ça n'a pas été discuté pour le moment. En ce moment, dans le milieu communautaire, on est surtout dans les AGA. Fait que peut-être
que
ça va être dans des rencontres plus tard que ça va être discuté. Pour le moment, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus.
Donc, on fait l'AGA, puis ensuite, on prend une pause pour l'été. Là, on ralentit un petit peu les opérations, j'imagine. Malgré que le loisir, l'été, c'est une belle période.
Nous, on aimerait ça partir en démarche. Je ne sais pas si vous connaissez la carte accompagnement loisir,
oui,
qui était auparavant la vignette d'accompagnement loisir.
Uh-huh.
Donc, c'est sûr que dans notre région, on va aller rencontrer les organismes. On veut commencer des démarches. Fait qu'on va profiter de l'été pour aller rencontrer les entreprises.
Pour augmenter le nombre de participants.
Oui, tout à fait. Donc, aussi, on a des actions au niveau du plein air. Fait qu'on va peut-être faire des actions qui sont plus en lien avec l'été. Le sport plein air, puis... voilà. Fait qu'on chômera pas cet été.
Merci d'avoir été là, Audrey Lynn Lachance, qui est directrice régionale de l'association, en tout cas, l'ARLPH... Loisir de la Nosière.
Loisir pour personnes handicapées de la Nosière.
Alexandre, merci, nous parle de VPN après la pause.
Vous écoutez Accès libre.
Avec Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagnier à la recherche. D'ailleurs, Alexandre, tu vas être obligé d'attendre. C'est Christiane en premier. Bonjour, Christiane Campagnier. Ben, j'espère.
Bonjour.
Tu vas bien? Je parle à Christiane.
Ah oui, moi je vais bien. Déjà, je ne savais plus à qui tu parlais.
Ben voyons.
Bon, oui, je vais très bien.
Tu nous parles de quoi, toi, qui fais ta petite revue de presse hebdomadaire?
Oui, ben quelques nouvelles tirées de textes américains. Donc, le site Vox, il y a quelqu'un qui écrit souvent des textes en lien sur le handicap ou le capacitisme, qui s'appelle S.E. Smith, et qui parlait de l'instrumentalisation du handicap dans par le mouvement anti-avortement, en fait. Autrement, les interdictions d'avortement sélectif, qui sont une manœuvre classique des groupes anti-avortement. Il y a certains États qui essaient de le faire, tels qu'Americans United for Life, sont vieilles et une constante source de frustration pour les personnes en situation de handicap, parce que ces lois, au fond, ont peu à voir avec la protection des personnes handicapées. Elles sont conçues pour restreindre l'accès à l'avortement et mettre les défenseurs de l'avortement dans une position inconfortable,
ouais,
en étant ceux qui appuient en disant, ben c'est ça, vous voulez tuer les petits fœtus handicapés. Et on veut, parce que ça ne se traduit pas nécessairement par les mêmes mouvements politiques, par une vraie protection des personnes handicapées par la suite.
Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux. C'est juste qu'effectivement, l'instrumentalisation...
c'est qu'il faut noter que 80 % des interruptions de grossesse ont lieu avant 10 semaines
et longtemps avant que quelques tests
aient eu lieu.
Bien sûr. Il y a quelqu'un qui a gagné un award hier.
Oui, voilà. Alice Stroker est devenue la première comédienne en fauteuil roulant à recevoir un Tony Award pour son rôle dans la pièce Ado Annie. Elle a déclaré que la victoire était, bon, pour chaque enfant avec un handicap, qui a une limitation, pour un défi, pour avoir une représentation de personnes qui a réussi dans ce domaine-là. Mais elle dit aussi que les théâtres de Broadway sont généralement accessibles aux spectateurs ayant un handicap, mais les coulisses et la scène ne le sont pas toujours, et même qu'ils le sont rarement. Alors, elle demanderait aux propriétaires de salles de théâtre et aux producteurs d'explorer vraiment comment ils pourraient commencer à rendre les coulisses accessibles afin que les artistes handicapés puissent se produire plus facilement.
Mais c'est intéressant ça, parce que c'est vrai qu'on peut l'oublier en ce sens. Généralement, surtout lorsqu'on est dans le commercial, ben on pense aux clients. Et que ce soit qui roule, que ce soit, on fait la promotion en fonction de la clientèle.
Oui.
J'entendais la ministre Quattro avec M. Mulroney parler d'un 20% qui... même nous, on tombe dans ce panneau-là trop souvent.
Oui, puis on oublie, on dirait qu'on pense pas. On a eu un exemple dernièrement là, sur les médias sociaux avec notre collègue Maxime Despomerleau, ouais. Où l'organisme qui l'embauche a loué une salle accessible. On lui a dit « oui, la salle est accessible », mais du côté de la salle Pierre-Mercure, on n'avait pas pensé que la personne en situation du handicap puisse être du côté de la scène et non pas seulement du côté des spectateurs.
Ouais. Maxime qui est en fauteuil roulant,
oui.
Puis qui était là 2 jours sur
la
scène.
Elle était l'animatrice de l'événement.
C'est ça.
Et un texte aussi dans le New York Times, qui, contrairement à d'habitude, n'est pas issu de... Parce qu'ils ont une rubrique de textes d'opinion sur le handicap. Mais là, c'est un concours d'éditoriaux auprès des jeunes. Et c'est une jeune fille qui a un trouble du spectre de l'autisme qui dit, bon, que tout ce que les médias sociaux font pour elle, pour ses interactions, pour pouvoir avoir le temps d'expliquer ses réactions aussi, elle a un blog, et qui fait que ça facilite ensuite ses rapports dans l'IRL, in real life... Mais aussi que ça s'inscrit dans un nouveau phénomène qui veut qu'aujourd'hui, les jeunes ne se contentent plus de l'image projetée par eux, par les médias, mais qu'ils deviennent leurs propres médias et que ça se voit souvent dans le cas du handicap. Je peux créer mon propre média où les personnes handicapées sont vues, entendues, plutôt que de consommer de manière passive les médias qui les dévalorisent ou qui les sous-estiment régulièrement.
Donc, et ça arrive souvent, hein? Ça écrit aux États-Unis.
Oui.
Il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. C'est souvent de ce côté-là que tu vas puiser ton contenu parce que les gens revendiquent, remercient, dénoncent, il y a quelque chose.
Dans le New York Times, mais aussi souvent du côté de l'Angleterre aussi. J'ai souvent des textes issus du Guardian qui a aussi une rubrique Disability.
Ouais. Merci, Christian. Monsieur Belmar, là vous êtes
Bonjour,
en vacances.
Monsieur
T'es en vacances, toi, Alexandre?
Ben oui, effectivement.
T'es parti quand?
En fait, je suis encore là. Je devrais partir quelque part d'ici à demain.
Ben, j'ai une paire de chaussures à la maison. J'essaie de comprendre c'est à qui. Mais c'est ça.
Il n'y a personne qui a gagné le concours.
Pas encore. C'est assez particulier. Il y a de plus en plus de... Bon, que ce soit Facebook, que ce soit Google, on entend parler de la protection de nos informations, que c'est important et tout et tout. Et j'écoutais un balado spécialisé en nouvelles technologies qui, lui, parlait du VPN comme un des outils qui pourrait nous aider dans la dite protection. D'abord, peut-être nous rappeler un peu, là, quel danger nous guette si on ne fait pas attention à verrouiller nos informations personnelles?
Ben en fait, qu'est-ce qui peut se passer? C'est certain que ce qui peut se passer, c'est que le fournisseur d'Internet sur lequel vous connectez, donc peut, par exemple, prendre de l'information sur vous, par exemple, des données, qu'est-ce que vous faites, attraper votre adresse courriel, etc. C'est certain qu'un fournisseur résidentiel, comme Bell, comme Vidéotron, comme Cogeco, fera pas ça nécessairement. Par contre, là où ce que ça peut être un petit peu plus problématique, c'est si vous connectez sans arrêt à des réseaux Wi-Fi publics, des aéroports, des autobus, McDonald's,
ouais, restos, c'est ça, okay.
etc. Mm-hmm.
Et bon, est-ce que il y a un danger aussi qu'on se fasse hacker par Alexandre, qui connaît ça et qui est bien bon?
Ben, en fait, là, on ne rentre plus dans le VPN à ce moment-là.
Okay.
On rentre beaucoup plus au niveau, en fait, des règles d'administration du pare-feu. On rentre dans ces choses-là. C'est par exemple, si vous êtes connecté directement derrière un modem, que vous n'avez pas de routeur, que vous n'avez pas de pare-feu, ben c'est certain que oui, le poste peut être vulnérable parce que toutes les ports vont être ouverts directement sur la machine. Là.
Mais j'entends que le fameux Virtual Private Network est limité dans sa capacité de nous protéger.
Ben en fait, c'est parce qu'il faut faire attention à quelque chose, c'est que le VPN, en fait, il y a beaucoup, en fait, de VPN qui sont commercialisés aujourd'hui sur la toile qui sont là, en fait, au contraire, non pas pour sécuriser, mais pour attraper des données.
Ben voyons.
Donc, c'est certain. Ben oui, il y en a plein de ça. Le VPN, quand on est connecté à ça, ils peuvent s'amuser si c'est pas crypté. Si vous faites pas attention aux contrats, aux conditions d'utilisation, ben, au lieu de protéger des données, ils vont vous les revendre. Ils vont prendre des données, ils vont vous les revendre. Ah, oui. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Quand vous prenez
Mais pourtant,
VPN,
c'est exactement la raison que l'on veut éviter, généralement, ouais, lorsqu'on se branche là-dessus.
Je sais, sauf qu'il y a des gens qui justement l'ont compris, mais qu'au contraire font des VPN. En fait, c'est quoi un VPN? Un VPN, c'est comme, par exemple, moi, je me connecte à votre réseau qui est chez vous,
ouais,
directement à distance. Je peux utiliser l'entièreté de votre réseau.
Ah, oui?
Mais vu que vous êtes l'administrateur du réseau, ben, si vous ne cryptez pas les données, si, dans le fond, vous voulez pirater les gens, ben, vous pouvez attraper tout ce qui passe par ce signal-là.
OK.
Donc, c'est certain que si vous embarquez dans la section VPN, ben, il faut faire attention à quelques éléments de ce côté-là. Première des choses, c'est certain qu'il faut s'assurer que les données soient cryptées en tout temps. On n'a pas le choix.
Qu'est-ce que ça veut dire, des données cryptées?
En fait, chiffrer, encrypter, okay, par exemple, okay, avec des clés spécifiques, donc des clés de hachage unique qui ne permettront pas, par exemple, aux détenteurs de la clé de... En fait, qui vont seulement permettre aux détenteurs de la clé de décrypter. Donc là, à ce moment-là, il y a différents process, là, différents processus qui permettent de crypter tout ça. On ne rentrera pas dans le détail parce que c'est des cours à l'université complet, juste la cryptologie. Okay. Mais en fait, il faut s'assurer de ça. Il faut vraiment également bien vérifier les conditions d'utilisation du VPN, sachant que il peut y avoir quand même plusieurs clauses cachées là-dedans. Et aussi, ben, regarder les commentaires des autres utilisateurs, mais jamais regarder les commentaires sur le site du fournisseur du VPN, parce que ça peut être très facilement truqué.
Oui, c'est biaisé.
Mettre des commentaires, ben, c'est ça, exactement.
Ouais,
mettre des commentaires faussés, c'est très facile.
Jean-Sébastien, Jean-Sébastien, t'es... Ouais. Des informations, t'es-tu du genre à te méfier, t'inquiéter?
Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas considéré le fait d'avoir un VPN. Ben, en fait, avant de me faire une idée là-dessus, combien ça coûte? Combien il faut que je débourse par mois ou par année pour être protégé par un VPN, à peu près?
Alexandre?
Il y en a qui sont gratuits. Il y en a qui ont des plans mensuels, qui ont des plans annuels. Ça dépend vraiment qu'est-ce que vous cherchez. C'est certain que je peux, par exemple, donner une petite liste de forfaits. Je ne donnerai pas de prix, sachant que c'est très vaste. Ça se magasine, tant qu'à moi, un petit peu comme un cellulaire. Puis même encore, c'est encore plus, si on pourrait dire ça comme ça, touché. Désolé l'anglicisme, tout dépendant qu'est-ce qu'on souhaite effectuer. Par exemple, il existe SaferVPN qui offre un essai gratuit, mais qui ensuite de ça offre des plans soit mensuels ou annuels, ne permet pas nécessairement l'écoute de Netflix. On a par exemple Windscribe qui offre des plans qui sont totalement gratuits, mais qui vont permettre seulement, si on ne fournit pas de courriel, c'est uniquement, on a droit à 2 gigs d'échange de données par mois.
Okay.
Et la vitesse de la connexion Internet peut s'en retrouver énormément réduite. CyberGhost qui offre une protection jusqu'à 7 appareils et qui permet un accès à Netflix. Il y a, par exemple, ExpressVPN qui, eux, leurs caractéristiques, c'est la vitesse, etc. Mais je pense, par contre, que ça serait vraiment important peut-être de faire une petite mise en garde. Si vous voulez vous embarquer dans un VPN, c'est pas destiné à un utilisateur débutant. C'est fait pour quelqu'un qui a quand même des bonnes connaissances en technologie. Donc, si vous utilisez des outils d'accessibilité, assurez-vous d'en avoir une très bonne maîtrise. Assurez-vous également...
Mais pourquoi? Parce que je peux pas juste... supposons, je vais te voir... Je te dis, bon, télécharge-moi ça, configure-moi ça, puis après ça, je m'arrange avec. C'est plus compliqué
que ça.
Vous
pouvez, en fait, par exemple, si vous prenez vos courriels à partir d'un VPN, s'il y a des scripts qui relèvent automatiquement vos courriels, Google, par exemple, vous utilisez Gmail, vous avez un compte Microsoft, donc une adresse Hotmail, Outlook, Live, mais vous pouvez très facilement, parce que le VPN, en même temps, c'est que ça permet de changer votre IP et de changer votre localisation. Mais moi, dès que je me connecte à un VPN, claf, automatiquement, Google Google va aller me bloquer tous mes accès. Il faut que j'aille revalider mon identité. Il faut que j'aille débarrer mon compte. Puis si le serveur VPN font des changements dans leur localisation, ben instantanément, vous allez tout vous faire bloquer. C'est magnifique.
Okay.
Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut être très vigilant de ce côté-là.
Et patient.
Et patient,
oui. Oui, patient, exactement. Puis aussi, ben, je vous conseille d'être bilingue, d'être capable de lire et de parler en anglais parce que la majorité des services, ça se passe en anglais.
Bon, toi, tu n'étais pas chaud à l'idée de parler de ça. Tu fais quoi, toi, pour te protéger?
Ben, généralement, moi, c'est pas compliqué. Ce que j'utilise, j'ai mon téléphone cellulaire. J'ai tout le temps ma connexion mobile. C'est certain que j'ai un très bon plan de données. Donc, moi, tout simplement, j'ai besoin de mon ordinateur en public ou juste mon téléphone mobile, mais j'utilise mes données mobiles et je partage la connexion de mon téléphone mobile avec avec mon ordinateur.
Tu n'utilises pas le Wi-Fi?
Nope. Le réseau Wi-Fi public, honnêtement, le moins possible, je veux rien savoir de ça. Justement, okay, à cause de ça. Parce que VPN ou non, dès qu'on se connecte à un réseau public, de toute façon, on peut se ramasser à attraper. En fait, le gestionnaire du réseau peut se ramasser à attraper, par exemple, des données sur votre PC, sur votre système d'exploitation, sur le temps que vous passez en ligne, etc. Puis ça peut même aller jusqu'à votre nom. Il s'agit que votre ordinateur soit nommé avec votre nom. Ils peuvent se ramasser à aller chercher cette information-là parce que le VPN va seulement s'occuper de crypter la connexion Internet, ne cryptera pas la connexion entre vous et le point d'accès. Donc, au niveau, par exemple, du PC, les informations du système d'exploitation peuvent aller, par exemple, chercher votre MAC address, de votre carte Wi-Fi, de votre carte Ethernet. Donc, c'est certain que, oui, on peut toujours, même avec un VPN, se ramasser avec de la cochonnerie là, à ce niveau-là.
Donc, à chaque fois qu'on est de bonne humeur parce qu'on est quelque part où il y a un Wi-Fi, on n'a pas de raison de l'être. Selon toi, là.
Moi, je me connecte jamais à ça. Okay. Jamais, jamais, jamais. J'ai horreur des Wi-Fi publics. J'ai horreur de ça.
Non, mais il y a un bon vieil adage. Ben, vieil adage. Ouais, c'est pas si vieux que ça parce que c'est technologique, là. Mais si tu payes pas, si le produit est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. Fait que ça reste un petit peu dans cette mouvement-là. Si t'as pas à payer pour, ben, il y a quelqu'un qui se fait de l'argent avec ça, avec tes informations.
Okay.
Effectivement, c'est souvent effectivement le point. Puis là, c'est sûr qu'il y a une utilisation du VPN qui est quand même appropriée. Vous souhaitez avoir accès à votre réseau quand vous êtes, par exemple, à l'extérieur de votre domicile. Ben là, ça peut être approprié, par exemple, de créer un VPN pour avoir accès à votre réseau. Puis c'est comme ça aussi que les travailleurs qui travaillent à l'extérieur d'une entreprise ont accès au réseau de l'entreprise. C'est grâce à un VPN. Puis là, l'utilisation en est pleinement justifiée. C'est juste qu'au niveau de la protection des données, il faut en prendre et en laisser de ce côté-là. Mais en tout cas, moi, je n'apprécie pas tant que ça. Il y en a aussi qui utilisent le VPN à d'autres fins, c'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser, par exemple, pour aller écouter du contenu média ou des séries télévisées, des films qui ne sont pas
autorisés
dans une certaine zone géographique, exactement, excusez-moi l'anglicisme, mais en spoofant l'IP, encore une fois.
Okay.
Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Pas légal, mais oui, certains VPN vont le permettre, mais des fournisseurs comme Netflix vont te faire pour bloquer ça, effectivement.
Bon, je rappelle que le VPN, c'est le Virtual Private Network. Bonnes vacances, Alexandre Bellemare. On n'en veut pas. Jean-Sébastien, on en veut-tu?
Non.
On en veut
pas. Si vous êtes très avancé, risquez-vous. Sinon, si vous êtes débutant, attendez peut-être un petit peu avec ça, parce que même vous pouvez vous ramasser à même peut-être capable de vous connecter à Internet si le script de configuration ne fonctionne pas de façon appropriée.
Bon, mais je suis convaincu, je veux rien savoir.
Non, moi non plus, non, c'est sérieux. Même si j'étais avancé, tu m'as convaincu, Alexandre.
Moi, je suggère pas nécessairement ça pour un débutant.
Bon, les amateurs de Queen, à moins d'être vraiment férus dans le Queen, il n'y a rien dans la prochaine pièce qui nous donne à penser que c'est du Queen, mais 39 de Queen. Thank you. C'est vraiment, vraiment différent. Laisse-le aller, c'est correct. Mais vraiment, bon, c'est pas Freddie Mercury, premièrement, qui chante. Deuxièmement, on reconnaît... En tout cas, j'aime beaucoup. C'est tiré de A Night at the Opera, 1975. Moi, j'ai découvert l'album alors que j'étais au cégep. Première, deuxième année de cégep. Puis Queen, il y a eu une époque où il était très, très, très bon. Chez les Fortins, en tout cas, ça marchait fort. Daniel Lebrun, bonjour.
Bonjour.
Pas de lien de parenté avec Pierre Lebrun?
Non.
OK, parce qu'il vient du même coin.
Ah, OK. Non. Non, la famille Lebrun, c'est de Moonbeam, Ontario. Au nord de l'Ontario, proche de Cap Skating.
Vous êtes cofondateur avec votre conjointe de Access to All.
Oui, oui, c'est
ça. Et on voulait parler d'accessibilité avec la Accessible Ontario with Disabilities Act. J'ai lu un texte dans le Ottawa Citizen la semaine dernière où les gens n'étaient pas vraiment contents et j'ai lu un texte où vous disiez, vous, que vous étiez vraiment content. Alors, ben, racontez-moi un peu pourquoi ça va si bien à Sudbury.
En premièrement, oui, je suis content, mais il y a tout le temps, les commerçants de la ville, là, il y a au moins 40 % en cours qui ne sont pas accessibles.
Ah oui.
Disons que je vais pour faire mes achats en ville, je vais avec ma conjointe, on veut sortir le soir. Aussitôt qu'on arrive en ville, il y a tout le temps des courbes en avant des commerçants qui ne sont pas accessibles. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des rampes accessibles pour la communauté. On ne pouvait pas aller magasiner en ville. Fait que c'est un petit peu tout partout, puis ouais. C'est au moins 40 %.
Daniel, il y a des il y a un petit peu le même principe qui a été proposé par quelqu'un ici, à savoir des rampes qu'on peut soit acheter, soit louer, en attendant qu'on se rende accessible, qu'on rénove. Et plusieurs personnes à mobilité réduite disaient « Ouais, mais ça fait en sorte que les gens ne se rénoveront jamais leur commerce, ils vont juste mettre la rampe lorsqu'il y a une personne handicapée qui va cogner à la porte pour dire « Hey, en y faisant signe ». Est-ce que vous avez rencontré une opposition du genre à Sudbury?
Oui, oui, c'est le même tout partout.
Okay.
Disons que c'est pas la meilleure réponse. Puis comme qu'il dit, c'est comme un band-aid.
Oui.
Mais c'est notre manière d'aider la communauté. Mais pour l'an 2025, ils veulent tout avoir accessible, mais ça n'arrivera pas. Disons comme un commerçant, il faudrait qu'il renouvelle tout son magasin. Puis ça serait le coût serait comme bien trop cher, disons 10 000, 20 000, ouais. 20 000 $. Mais même une porte avec les pitons automatiques, là, Même ça, c'est 15 000 $.
Ouais, ouais, ouais.
C'est pour ça qu'on a fait les rampes. C'est pas idéal pour régler tous les problèmes. Mais disons, c'est un commencement.
C'est un bon palliatif. Je n'ai pas étudié là, la AODA, mais je me demandais, est-ce qu'il y a des pénalités si en 2025, les gens ne sont pas accessibles ou ben on va donner encore un petit leeway, puis on va être patient, puis...
Non, il n'y a pas de pénalité.
Ah, okay.
Mais disons qu'ils ne sont pas obligés de tout renouveler l'édifice ou le magasin par 2025. C'est ça que le monde se trompe. Puis il essaie de renforcer la loi, mais si c'est une vieille bâtisse ou... sont pas obligatoires pour renouveler.
OK.
Donc, c'est pour ça que on espère que les portes automatiques, on espère d'avoir une rampe pour eux autres, mais ils ne sont pas obligés.
Là, c'est une loi qui a été déposée en 2005. Est-ce qu'il y a quand même des responsables, des fonctionnaires, qui sont mandatés pour surveiller et dire « Hey, il te reste juste 5 ans, chose. Il va falloir que tu t'actives. »
Ben, c'est justement comme la semaine qui vient juste de passer pour l'accessibilité, on essaie de faire sensibilisation puis un petit peu d'éducation pour pousser les politiciens, notre maire, d'encourager les commerçants de se rendre accessible. C'est autour de 13% de la population qui est accessible, qui a un handicap quelconque. C'est quoi, une personne sur 5, puis ça monte d'année en année.
Wow.
Fait que avec la sensibilisation, j'espère que d'encourager les gens, d'encourager les politiciens de pousser la loi le plus possible parce que on a le besoin.
On a parlé beaucoup des commerces, mais le transport collectif, comment ça se déroule de ce côté-là? Disons, les autobus type régulier, là?
L'autobus de la ville, pas de problème. Nous autres, on a un Handy Transit qu'on peut avoir pour 48 heures d'avance.
Okay. Mais quand même! 48 heures!
Oui, mais okay. Quand ça arrive à les taxis, c'est là qu'est le problème. Même hier soir, je m'ai fait refuser un taxi accessible. C'est dimanche, j'ai appelé, je voulais avoir un taxi pour 10h30 le soir. Puis tout de suite, ils m'ont dit « Ah, il n'y a pas de taxi sur le chemin. Ah, oh, les chauffeurs sont pas entraînés. Ah, oh, l'autre taxi est en panne. » Donc, j'ai appelé l'autre compagnie. L'autre compagnie, la même affaire encore. « Ah, il n'y a pas de chauffeur. Il n'y a pas de chauffeur entraîné. » Fait que « Ah, mais on peut t'envoyer un taxi seulement à 9h30. » Fait que là, j'avais pas le choix, là, comme j'ai dit. « OK, fait que... » C'était le seul que je pouvais avoir.
Ouais.
Fait que c'est encore un problème. On se fait refuser le service. Ça fait partie de leur service. Puis c'est sur le site. Ils disent même que les taxis accessibles sont disponibles pareil comme les taxis normaux.
Ouais, c'est fou ce qu'on peut écrire quand on n'est pas obligé de livrer le service.
Moi, je fais des plaintes à la ville. Puis j'espère que ça va changer parce que... Non, on est bien frustrés de ça.
Mais est-ce que c'est la ville ou le ministère du Transport?
Ah, là, je sais pas. Would it be the city or the Ministry of Transportation?
Oui, parce qu'ici au Québec, ce serait le ministère.
C'est la ville. C'est le
ministère
de la ville.
OK.
Donc, fait qu'il faut renforcer ça parce que se faire refuser, surtout l'hiver, là, quand t'es à quelque part et tu peux pas retourner toi-même, fait que, ça devient un problème. C'est bien frustrant.
Sais-tu si le web en Ontario est quand même assez accessible pour les personnes aveugles, pour les personnes avec des troubles de neurologiques?
Moi, d'après ce que j'ai vu avec la ville de Sudbury, là, ils ont changé bien leur site, mais je pense que c'est plutôt pour les sites de la ville ou c'est pas tout partout. Mais,
okay.
Moi-même, je suis handicapé, j'ai un fauteuil roulant, je suis quadriplégique, mais je suis capable d'utiliser ma souris, puis l'Internet, pas de problème, mais surtout avec des visions pour le web, je dirais que seulement les sites pour de la ville qui sont plus développés.
Ouais. J'aime le nom Access to All avec le chiffre 2. Lâchez pas, c'est le fun. En même temps, c'est une, tu sais, gars, fille, anglais-français, pour le bien commun. Belle initiative, puis ben, on se rend compte que les lois cadres, c'est vraiment pas miraculeux, mais bon, faut commencer quelque part.
Oui, oui, merci beaucoup.
Salut Daniel Lebrun, bonne journée.
OK, OK, bonne journée.
Jean-Sébastien, il en reste une.
Yeah!
Bon, OK.
Après ça, deux congés, deux lundis de congés.
Puis après ça, on animera d'autres choses.
Bon, on verra ce que ça donnera. We'll cross that bridge when we get there.
Toi, t'es en vacances cet été. Moi, je suis avec Christiane les lundis.
Oui, oui, j'ai des vacances. Je te le dirai en secret tantôt.
Ah, d'accord, d'accord. Ben, t'écouteras du Queen pendant tes vacances.
On verra ça.
Hey, salut tout le monde. Passez une bonne semaine. Merci d'avoir été là. Finalement, j'étais de bonne humeur. Si vous avez enduré ma voix, ben moi, j'étais de bonne humeur.
J'ai des nouvelles sur les souliers la semaine prochaine?
Ben, oui, oui. Fais-moi penser. À qui appartiennent les chaussures? Ciao.